Alors, Radio Barque, pour cette troisième partie, notre invité Henri Martin, qui est maire de Port-la-Nouvelle, en plus de vice-président de l'agglomération du Grand Narbonne, et puis également, alors, vous êtes conseiller départemental, dit-on maintenant, d'opposition, c'est d'ailleurs assez original, parce que vous êtes le seul binôme, un peu perdu peut-être à Carcassonne à ce niveau-là, on y reviendra peut-être. En tout cas, vous êtes d'abord élu, Henri Martin, maire de Port-la-Nouvelle, qui a des grands projets sur lesquels on revient tout de suite après, mais on constate, en lisant la presse quotidienne, que de temps en temps, avec votre opposition, il y a quelques frictions. Il vous attaque volontiers aussi, pas sur un marché conception-réalisation.
Oui, mais ce serait de bonne guerre, puisque nous sommes en démocratie.
Oui, voilà.
S'il y avait un peu plus de nuances et si cette opposition se comportait avec un petit peu plus de fair-play que ce qu'elle le fait. Et je n'en veux pour preuve d'ailleurs que nous sommes vus attaquer le dernier débat d'orientation budgétaire 2016. OTA, et ce même tribunal administratif, devant les incessantes attaques de cette même opposition depuis tant d'années, a conclu à les, non seulement à les débouter, bien sûr, parce que le support du débat d'orientation budgétaire était particulièrement bien préparé par une direction générale des services qui est absolument impeccable à ce niveau, mais également donc le tribunal a accompagné sa décision d'une amende de 1 500 euros qui a été infligée à l'opposition. Bon, je n'en tire pas à gloriole, mais c'est vous dire si il y a des façons de s'opposer que je qualifierais d'un petit peu plus intelligente ou participative. Vous évoquiez notre label d'opposant au département. Je tiens à dire très clairement qu'à Marie-Christine Théronchet, nous votons le budget départemental. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lignes de crédit essentielles qui vont et sur le Grand Narbonne, et sur le port, et sur l'aéroport, et qui vont sur le département entier. Je vois mal comment on peut, dans notre petit coin, avec la modestie de nos moyens, aller s'opposer à une volonté politique que le département a exprimée entier. Je ne dis pas que le score fut écrasant à Port-la-Nouvelle, mais je crois qu'aux dernières municipales, les Nouvellois leur ont dit « c'est Martin qui a raison, c'est Martin que nous suivons avec ses amis ». Et donc, par conséquent, essayer de collaborer un petit peu avec eux et de faire jouer les choses positives plutôt qu'en permanence revenir sur le fiel, sur le négatif.
Alors, le port, évidemment, Port-la-Nouvelle, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué. Je n'apprends rien à personne en disant que Port-la-Nouvelle est un port. Mais par contre, il y a un grand, grand projet d'extension qui, d'ailleurs, semble se concrétiser très récemment avec la venue symbolique de la présidente de la région, Carole Delga.
Oui, le port de la Nouvelle, petit rappel, la Nouvelle, le mot port a été rajouté après la Deuxième Guerre mondiale, puisque sa destination a été officiellement reconnue un petit peu par tout le monde, à la fois par les autorités municipales, mais également par toutes les autorités étatiques. Donc, Carole Delga a rendu visite au port de la Nouvelle, au port régional de la Nouvelle. Hein, c'est pas le port de la Nouvelle. À une époque, il était port d'État, oui. Géré par la CCI, et puis il est devenu port régional. Donc, elle a rendu visite à ce port régional à l'occasion des élections régionales, je l'ai reçue. Elle m'a demandé de participer avec elle à une réunion de travail et d'échange avec les professionnels de ce même port, avec les élus politiques du moment, les parlementaires. Et à l'issue de cette réunion, qui fut très fructueuse, très engagée, très directe, j'ai indiqué aux membres de ma majorité du conseil que j'ai réuni le soir, je leur ai dit, écoutez, j'ai rencontré une candidate intéressée par la problématique portuaire, et ce qui m'a quelque part séduit dans son attitude, c'est qu'elle fut très prudente dans ses propos en disant, écoutez, si je suis élu, nous ferons un état d'inventaire, et ensuite nous verrons. Et puis ensuite, bon, elle a été élue, absence un an et demi, et puis à l'issue de cette absence radio, entre guillemets, donc elle revient sur le secteur en indiquant que la modernisation du port est maintenant envisagée, qu'elle est dans les clous, et que la région va abonder en ce sens.
Alors il y a deux choses qu'on va vous demander d'expliquer très concrètement, Henri Martin. Il y a l'extension du port, c'est-à-dire l'approfondissement des bassins, par exemple. Mais il y a aussi un grand projet alors d'État, celui-ci d'éolien flottant au large de Port-la-Nouvelle et puis au large de Leucate, je crois, à Barcarès. Mais Port-la-Nouvelle étant destiné à devenir le port d'où partiraient ces éoliennes flottantes. Donc commençons par l'extension. Donc là, il s'agit de permettre à des navires plus gros de venir.
Voilà. Cette étape s'inscrit dans la logique d'étape du port de la Nouvelle. Tout à l'heure, nous étions à Narbonne, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans et un petit peu plus. Au Moyen-Âge, le fleuve Attax fait des siennes. Il quitte son lit. Il y a beaucoup de sédiments qui arrivent et qui empêchent dorénavant le trafic d'aller jusque dans la Narbonnaise, vers la Nautique, etc. Donc, il se rapproche du bord de la Méditerranée. Concomitamment, on s'aperçoit quand même qu'il y a un intérêt peut-être guerrier aussi d'avoir un port. Et en 1704, Charles Gouda Verchères, un Narbonnais, archevêque de Narbonne, vient donc poser la première pierre du mol du port, qui se situait, pour ceux qui le connaissent, complètement à l'entrée des étangs. À partir de là, le port va avancer. Un autre Narbonnais, ou presque Narbonnais, Adolphe Turel, qui fut ministre des Travaux publics et qui était natif d'Ornaison, vient inaugurer la Grande d'Arce, où le tirant d'eau devait être 3 ou 4 mètres, et où les bateaux devaient mesurer 60-70 mètres de long. Et puis ensuite, ce port va se mettre à grandir après la Première Guerre mondiale. C'est l'avènement du pétrole, l'avènement de l'automobile, la première importation d'hydrocarbures par la société Méridionale et par FINA. Et à partir de là, donc, Deuxième Guerre mondiale, où on retrouve un port totalement délabré, et où viennent se pencher sur le berceau de la Mariée, la Chambre de commerce de Toulouse, la Chambre de commerce de Castres, et où les Narbonnais donc, se voient confier la gestion de ce même port. Aujourd'hui, les trafics maritimes commandent des navires beaucoup plus longs et à des tirants d'eau beaucoup plus gourmands. Voilà pourquoi l'activité du port va continuer dans ses anciens murs ou quais, si on veut, mais elle doit se déporter un petit peu plus au large. Et l'agrandissement, ce qu'on appelle l'agrandissement du port, c'est sa modernisation. Ce sont deux jetées qui vont être construites en mer afin d'avoir un tirant d'eau beaucoup plus adapté au nouveau trafic.
Ça ne change pas fondamentalement, à part l'éolien prochainement, la qualité ou plutôt le genre de produit qui passe par le port de Port-la-Nouvelle.
Non, absolument pas. Les trafics continueront à être ce qu'ils sont, ils évolueront peut-être. Le port de la Nouvelle a un interland qui se situe jusque à l'Andorre, parfois en Espagne avec les hydrocarbures, et à la limite de l'Hérault. Voilà, puis ensuite c'est Frontignan qui prend la relève. Aujourd'hui, force est de constater que, et le phénomène est concomitant, je ne commente pas, parce que c'est très dommageable pour eux, quand on voit une telle situation, le conflit politique en Catalogne, et sociologique en Catalogne, fait que peut-être le port de Barcelone va, entre guillemets, perdre en crédibilité et en sérieux. C'était un concurrent particulièrement sérieux. Donc je crois que plus que jamais, il faut que une étape complémentaire méditerranéenne actualisée aux besoins du moment soit réalisée. Et de plus, la politique menée par le gouvernement précédent, et Ségolène Royal en particulier, qui a consisté à lancer des projets éoliens offshore expérimentaux, a vu attribuer un projet au large de Gruissan pour la Nouvelle et un projet au large de Le Cat-le-Barcarès. Et il est évident que le port d'assemblage sera le port de la Nouvelle, puisque un quai dédié va être construit avec des taux de compression au mètre carré qui sont absolument phénoménaux et qui vont pouvoir permettre justement le stockage et le montage de l'éolienne en pied avant de l'amener vers le large lorsqu'elle sera opérationnelle.
Alors, expliquons maintenant un petit peu plus ce qu'est cet éolien flottant, puisqu'il va s'agir d'éolien flottant. Donc, il est en mer, mais parfois ce sont des appareils qui sont posés sur le fond. Là, ça n'est pas le cas. Pourquoi ?
Lorsque nous avons visité des fermes donc dans les pays nordiques, dits nordiques, effectivement, il s'agit d'éoliennes posées sur 10-15 mètres de fond, dans des polders souvent. Par contre, pour la Nouvelle, comme d'ailleurs un prototype expérimental a été mis à l'eau, a été largué au large de Saint-Nazaire, il s'agira d'éoliennes flottantes. Tout simplement, c'est la technique qui le veut, puisque nous serons sur des fonds de 25 ou 30 mètres, et on verrait mal comment on peut aller ficher au fond de la mer une éolienne et pouvoir la faire tenir. Elle reposera sur de gros flotteurs qui seront pour la partie Port-la-Nouvelle Gruissan des flotteurs en béton, donc qui pourront être réalisés sur place avec la même technologie avec laquelle a été réalisé le port de Monaco, les grandes jetées de Monaco. Et pour la partie Le Cat Barcarès, ce sont des flotteurs en métal qui seront fabriqués dans le secteur de Foss et qui seront acheminés à Port-la-Nouvelle.
Alors ces deux, alors ce sont des tests, il s'agit de tests qui sont différents, qui vont tester des technologies qui devront peut-être être adoptées comme technologie unique dans l'avenir.
En fait, il y a à la fois le test du matériel, le test du résultat et surtout le test financier. Il ne faut pas perdre de vue que l'éolien aujourd'hui a un coût. L'éolien offshore aura un coût différent. Pourquoi ? Parce que mariniser du matériel, ça coûte toujours plus cher. L'entretenir, ça coûte toujours plus cher. Et à partir du moment où on aura mis au point la technologie nécessaire à la production de courant le plus longtemps possible pendant la journée, parce que l'originalité du moulin en vent que l'on pose en mer, c'est que pratiquement en mer, il y a toujours
ça
un peu
toujours,
de brise.
Ça tourne toujours.
Voilà. Donc il y a des taux des coefficients de rentabilité qui sont bien supérieurs à ceux qui sont à terre. Par contre, il faut voir le coût. Et à partir de là, si les États qui veulent défiscaliser, qui veulent disqualifier pardon, les autres productions d'énergie, s'en donnent les moyens et abonderont pour compenser les équilibres. À aujourd'hui, il semblerait qu'en Allemagne, l'offshore est arrivé à un prix de marché qui est tout à fait acceptable.
Voilà, mais en Allemagne, c'est plutôt de poser sur le fond hein ? Où il y a du flottant.
Il y a du posé, il y a du flotteur.
Il y a du flottant. Oui, Michel, une remarque ?
Oui, simplement, si j'ai bien compris, mais je parle là sous contrôle de Henri Martin, il s'agit d'une phase d'expérimentation. Ça veut dire que la société qui expérimente sa production, sa technologie en fait, sous la nouvelle, est en concurrence avec d'autres sociétés qui expérimentent leur technologie en fait, et leur coût de revient sur d'autres sites. Donc c'est vrai qu'on est à cette phase-là aujourd'hui et que, bon, de la capacité de l'entreprise régionale qui est sur la nouvelle, qui est d'ailleurs une belle entreprise, quoi, qui a été rachetée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, entre parenthèses, qui, de sa capacité à effectivement prendre ce marché et conséquemment développer son
voilà,
produit
donc,
sur la nouvelle.
On est dans de l'expérimentation.
Voilà. Et il est vrai que ce projet d'éolien offshore accélère le processus de règlement du port lui-même. Qui aurait peut-être pris un ou deux ans de plus. Et c'est en cela que nous avons remercié et dit à Madame Velga combien nous partagions, bien entendu, cette volonté régionale. Nous la remercions et nous la soutenons, bien entendu.
Alors, pour en finir sur ce projet, aujourd'hui, quels sont les délais, quelles sont les dates prévues ?
L'horizon, c'est d'abord enquête publique qui démarre au mois de janvier, puisque toute étude de faisabilité...
il y a eu beaucoup de consultations ces derniers temps.
Voilà, beaucoup de consultations publiques, etc. Du côté éolien, la même chose, dont les tracés et l'atterrage des câbles de production et des raccordements, et donc tout porte à penser qu'à l'horizon 2020-2021, à la fois les travaux du port qui vont permettre d'accueillir le portage du quai et le montage des éoliennes pourra donc être en production et envisagé.
Voilà, donc c'est quand même c'est proche.
C'est très proche et on n'a jamais autant senti palpable le projet que depuis la venue de la présidente qui est venue le confirmer et qui le relie à tout un tas d'investissements dans le secteur de la région et en même temps d'ailleurs que nous la soutiendrons également sur la programmation de la ligne TGV lors de la manifestation de Perpignan du 29, voilà, à laquelle nous assisterons. Et tout à l'heure, Michel Santo parlait des Catalans. Bon, je pense que Caro Delga les traite à la fois avec précaution, mais avec beaucoup également d'attention et de dignité, parce que les Catalans sont des gens qui ont été très actifs, et l'histoire l'a prouvé, à la fois dans l'économie et la sociologie du secteur. Et demain ou après-demain, expliquer à ces gens-là que le TGV s'arrête à Béziers ou à Narbonne, je crois qu'on ne comprendrait pas. Et la meilleure des façons de les rassurer, si je m'appelais Carole Delga, je n'ai pas cette prétention, bien sûr, c'est de leur dire et de proposer carrément que le prochain tronçon, plutôt que de se gratter la tête à calculer entre Montpellier et Béziers, c'est de réaliser le tronçon Perpignan-Narbonne et après, nous dirons à ces messieurs de Toulouse et à ces messieurs de Montpellier, essayez de faire le raccordement et la jonction.
Voilà, mais là c'est le pays bitérois qui va se soulever. Oui, juste une petite.
Oui, on aurait suggéré même aux Catalans pour aller dans pour suivre Henri Martin de manière ironique sur ce sujet-là, de financer le déficit abyssal du conglomérat privé qui gère en fait le tronçon en fait Figueres en fait Perpignan et qui est en dépôt de bilan maintenant depuis quelques années, qui est abondamment financé par les États respectifs d'Espagne.
Plus d'argent n'est pas mortel, Michel Santo.
Alors Henri Martin, on a beaucoup parlé de ce port qui est un grand projet, alors régional essentiellement, puisque c'est aujourd'hui la compétence de la région. Mais vous êtes aussi au Grand Narbonne, à la communauté d'agglomération, vice-président chargé des grands projets, justement. Et donc vous êtes un des vice-présidents, d'une part. Vous êtes également, vous présidez un groupe... parmi les trois qui siègent aujourd'hui à cette agglomération. Alors comment voyez-vous on peut dire le problème récurrent qui existe aujourd'hui du fait qu'il y a des bisbilles sempiternelles entre le président de l'agglomération d'un côté et le maire de la ville-centre d'un autre. Vous êtes parfois... Est-ce que vous vous sentez pris entre le marteau et l'enclume, par exemple ?
Si on devait donner un rôle de marteau et un rôle d'enclume à l'un ou à l'autre, je ne sais pas à qui on pourrait le donner. Voilà. Non, je crois que...
Voilà un bel échappatoire. Alors, la situation politique, on peut dire même politique politicienne.
Elle est assez atypique puisque, bon... L'agglo telle qu'elle est gouvernée aujourd'hui, il faut remonter après les municipales de Narbonne, où chacun s'accordait à dire que M. Bascou devait être réélu. Quand je dis chacun, peu d'avis autorisés donnaient des chances à Didier Mouly de récupérer la mairie d'un maire socialiste sortant. Ça paraissait un petit peu totalement incongru. Par ailleurs, pour la nouvelle en particulier, a rejoint l'agglomération donc 3 ans avant les municipales. Et je dois dire que, à son corps défendant, le président Bascou a toujours tenu les engagements qu'il avait pris envers le représentant de la collectivité. Et surtout, dans cette logique que nous avions élaborée avec Georges Frêche, qui a été suivi par Christian Bourquin après et par Mme Delga, à savoir les investissements donc importants sur le secteur Port-La Nouvelle au niveau du port. Donc le sortant Bascou et le maire de Port-La Nouvelle ne pouvant se féliciter que de cette collaboration, avaient également prévu la suite logique, c'est-à-dire une présidence d'agglo qui était confiée au maire de Narbonne. Or, il n'en fut rien, puisque les choses ont tourné différemment. Elles ont tourné tellement différemment que même le vainqueur de cette élection, Didier Mouly, n'a pas certainement jaugé et mesuré l'importance de l'agglomération dans la vie quotidienne de Narbonne. Et il s'en est rendu compte au fur et à mesure que le temps a passé, au fil des mois. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une situation atypique qui ne se reproduira pas, il faut être clair. C'est que non seulement il y a quelqu'un qui n'a rien à voir avec la gouvernance politique de la ville-centre, mais en même temps, qui est un membre de l'opposition à la ville-centre. Et c'est une situation qui ne peut pas se reproduire. Demain ou après-demain, je vois mal quel conseiller d'opposition peut récupérer, que ce soit la ville-centre ou d'une ville moyenne ou d'un petit village, la présidence de l'agglo. Donc c'est un épisode avec lequel il faut faire bonne fortune, c'est comme ça. Maintenant, on a, vous l'avez rappelé, des personnalités qui s'affrontent en permanence. On a des gens qui commencent à préparer la municipale, d'autres qui préparent avec une attitude défensive, les autres avec une attitude plus offensive. Et au milieu de ça, donc, des élus qui essaient un petit peu bon an mal an. J'avoue qu'au cours des 2 premières années de cette mandature, je m'étais dit, tu pourras peut-être jouer le rôle du monsieur bon service entre Didier Mouly et Jacques Bascou. En fait, j'entretiens des rapports de qualité avec l'un et avec l'autre, sans jamais pouvoir être parvenu à, non pas les mettre d'accord, mais à les rapprocher et essayer de jouer une plateforme commune. Tout à l'heure, vous parliez de la salle multimodale. Il est vraiment dommageable que ce projet n'ait pas été posé sur la table de l'agglo. Mais il ne pouvait pas l'être, car étant sur un programme politique d'une liste, n'étant pas sur le programme de l'autre, et a été décrié par l'autre. Et ça, c'est un petit peu les limites, quand même, du système de mise en place des agglos actuels. J'irais même, d'ailleurs, jusqu'à dire que pour l'avenir, pourquoi ne pas envisager que ça ne soit pas un maire du tout qui soit président de l'agglo. Il y a des adjoints et des élus dans les villages, dans les villes moyennes et dans les grandes villes, qui peuvent très bien remplir ce rôle, et qui lui donneraient un peu plus de hauteur et peut-être un petit peu plus de neutralité que ce qu'il en a aujourd'hui. Et il est évident que demain ou après-demain, il faut que la ville-centre, quelle que soit sa gouvernance, dispose de 4 ou 5 vice-présidences majeures dans la gouvernance de l'agglo.
Il ne peut en être ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ce qui est probablement une source supplémentaire de tension.
Oui et non, car il y a des vice-présidents, et j'en suis... Pardonnez-moi le côté narcissique, qui font en sorte d'être équilibrés et de jouer le jeu aussi bien avec un regard attendri d'un côté qu'un regard attendri de l'autre.
Voilà. Enfin, pour conclure, vous avez assez récemment fondé justement un groupe, alors qu'au démarrage, vous siégiez dans le groupe de M. Bascou. Quelle était la volonté ? Un équilibre entre les deux blocs ?
Il n'y a pas eu de volonté particulière, mais vous savez, en famille, il y a des gens qui parlent, il y a des familles où on parle plusieurs dialectes. On parle des catalans, Moi, chez moi, à table, certains parlaient catalan, j'avais des carcassonnés qui parlaient patois, d'autres qui parlaient français. Et à un moment, on se dit, bon, pourquoi pas réunir les catalans, réunir les ceux qui parlent patois et se faire des repas un petit peu de famille. Et c'est ce qui m'a poussé à ne pas laisser traîner mes grandes oreilles dans une famille qui se veut essentiellement socialiste, donc le groupe Bascou. Et donc nous avons décidé de migrer sur une situation un petit peu indépendante, ce qui quand même continue à être intéressant puisque nous disposons de 3 vice-présidences, d'une place de conseiller délégué,
bientôt.
Et peut-être même nous aurons une 4e vice-présidence. Donc c'est pas du tout, ça n'a rien de malicieux ni de politique. C'est simplement que nous avons voulu prendre un petit peu de recul par rapport à ces discours un petit peu passionnés et ces comportements peut-être un peu trop passionnels parfois.
Merci Henri Martin donc pour ces explications et ce témoignage. Le prochain Radio Barque recevra alors le député En Marche aujourd'hui, Alain Perea. Et puis un petit peu plus tard, je le disais tout à l'heure, nous recevrons Sébastien Pla, qui lui est responsable du tourisme au département et puis aussi à la région. Donc nous reviendrons évidemment sur...
Qu'il soit maire d'un tout petit village de 150
habitants.
Voilà. Duyac, Peyrepertuse, il est bon de le rappeler. Merci à vous et à la semaine prochaine.